franceinter.fr.
8h22 sur France Inter.
France Inter. Laetitia Gaillet. Le 6-9 de l'été.
Bonjour Patrice Van Hersel.
Bonjour Laetitia.
Invité de la matinale, Patrice Van Hersel, journaliste, écrivain, vous faites partie de ceux qui ont participé à l'aventure d'Actuel, dont Jean-François Bizot sera le grand patron. Alors pour les oreilles jeunes, Actuel fut un magazine phare de l'underground, de ce que l'on a appelé la contre-culture dans les années 70-80. La première version d'Actuel est sortie il y a tout juste 50 ans, en 1967. Et vous, Patrice Van Hersel, vous racontez donc cette aventure dans un livre qui sortira à la rentrée, l'aventure d'Actuel telle que je l'ai vécue. Alors en quoi Actuel était si révolutionnaire selon vous à l'époque?
Bizot, dont vous avez prononcé le nom, avait ceci de particulier qu'il réussissait à faire le lien entre une presse classique, lui il avait travaillé à l'Express, il avait même fait un stage au Monde, et l'underground, comme la free press, la contre-culture américaine, qui voulait faire exploser le système. Et il a assuré une sorte de synthèse, avec une intuition incroyable,
oui, capable quand on, de... Quand on parle d'intuition, c'est qu'il avait, il était visionnaire sur l'époque.
Complètement, complètement. Il a senti... Quand il vient voir Jean-Jacques Servan-Schreiber à l'Express et qu'il lui dit, parce qu'il venait de passer quelques mois aux États-Unis dans la fameuse année 1969, c'est-à-dire Woodstock, le Summer of Love, le
Flower Power,
et l'explosion du mouvement hippie là-bas, il vient voir Jean-Jacques Servan-Schreiber qui est son patron, il lui dit il se passe quelque chose d'extraordinaire, la contre-culture est en train de bouleverser le monde. Et JJSS lui dit, bah écoutez, écrivez-nous un article, ça ira, et puis on verra après.
Et puis on verra après.
Il se rend compte que la presse classique ne va pas intégrer ce qui est en train de se passer, qui est à la fois mai 68 à la française et le 67, 68, 69 à l'américaine. Et il se rend compte qu'il va devoir créer cette presse lui-même. Et donc, oui, vous dites... il y a 50 ans, Actuel est né, oui, parce qu'au début, c'était un petit journal de
un
jazz.
Fanzine.
C'était un journal de jazz qui a eu deux propriétaires successifs. Bizot rachète ce titre et il est capable, à ce moment-là, de convaincre une petite bande très intello qui s'appelle Michel-Antoine Burnier, Bernard Kouchner, Jean-Paul Ribes, qui sont des gens qui viennent de... qui se sont fait jeter du Parti communiste, ou
des
étudiants communistes. Certains sont Mao. Non, Burnier et Kouchner étaient plutôt sur la ligne italienne, comme on disait. Et ces gens-là veulent faire un journal parce qu'ils avaient déjà fait des journaux. Ils avaient travaillé avec Dastier de la Vigerie à l'événement. Ils avaient fait Action en mai 68. Et ils voient cet Uluberlu, ce grand type à cheveux longs. Ils sont pas très rassurés, mais en même temps, lui est tellement sûr de son fait qu'il les convainc. Et donc, c'est un petit peu l'eau et le feu, Burnier et Bizot. Bizot, complètement créatif, débordant d'idées. Burnier, le prof de Sciences Po.
Mais Patrice Van Hersel, vous dites effectivement, on voit que Bizot lance Actuel. Dans le contenu, il y a des choses qui se passent parce que on n'écrit pas de la même manière dans Actuel. On ne dit pas les mêmes choses. Il y a toute une époque que vous arrivez jeune journaliste dans cette histoire. Je voudrais qu'on parle d'un endroit qui va être le socle d'Actuel. C'est Saint-Maur-des-Fossés. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est que cette histoire, ces châteaux où Bizot vous héberge?
Mais, donc, Actuel a connu deux périodes. Il y a eu la période donc contre-culturelle underground, qui a duré de 70 à 75. Et puis, en 75, le journal s'ennuie, en quelque sorte. On ne veut pas faire de marronnier, répéter trois fois les mêmes thèmes comme font les journaux habituels. Et donc, le journal se saborde, arrête. Moi, j'étais désespéré, d'ailleurs, parce que
c'est Bizot qui s'aborde. Hein. Bizot, il casse ses jouets, par exemple.
Il casse ses jouets. Et à ce moment-là, il achète une très grande baraque, enfin mieux qu'une baraque, un hôtel particulier qu'il a fait rénover en banlieue. Et il parvient à convaincre, ce qui n'était pas évident, il parvient à convaincre. Moi, oui, parce que j'étais à la rue à ce moment-là, pendant un moment. Et donc, il m'a convaincu sans problème. Mais les autres, ce n'était pas évident, parce que chacun était installé dans son confort, enfin, dans son petit appart, où quelques-uns étaient en coloc déjà. Et il parvient à convaincre toute la bande d'habiter ensemble. Et à ce moment-là, d'inventer, alors on va mettre 4 ans quand même à inventer le second actuel, celui qui va apparaître à partir de 78-79, celui qui est qui est plus connu, parce que c'est un magazine de grands reportages. Et donc dans cette maison, à la fois nous vivons ensemble en communauté, une communauté assez luxe dans un sens.
Parce que vous êtes logé à l'œil.
Parce qu'on est logé à l'œil. En même temps, on produit rien, donc on gagne rien, donc on est un peu fauché aussi. Donc, ça donne une sorte de bouillon de culture dont va sortir ce journal de grand reportage un peu particulier qui va pratiquer alors le nouveau journalisme. Ce qu'on a appelé le nouveau journalisme, et qui est un journalisme qui, plutôt que de faire des synthèses, raconte des histoires.
Alors, effectivement, dans ce nouveau journalisme, inspiré des expériences anglo-saxonnes et américaines, notamment Tom Wolfe, un des journalistes qui sera un des précurseurs du nouveau journalisme, c'est quoi la différence? C'est parce que c'est pour la première fois, dans ces reportages au long cours, qui sont énormes, on dit « je ».
Oui, ça c'est très important, le jeu.
Le journaliste se met en scène.
Le fait que, plutôt que d'aller, que d'essayer de faire des synthèses, plutôt que de faire du journalisme objectif, ce qu'en principe on a appris, moi j'ai fait une école de journalisme, j'ai fait Sciences Po, une école de journalisme pour apprendre ça, là c'est, non, tu vas aller sur le terrain et tu vas vivre une expérience. Et si tu ne vis pas une expérience, si tu n'as pas une vision, littéralement c'est presque, ça prétend être du journalisme visionnaire, si tu n'as pas vécu quelque chose qui, toi, t'a remué corps et âme, alors ça vaut pas la peine. Alors essaye de le vivre. Et on l'a vécu plein de fois.
Précisément, vous allez en Afrique,
oui.
Et vous allez faire la une d'actuel. J'ai vidé les poches d'un dictateur. Rapidement, pouvez-vous nous raconter cette histoire? Vous allez en Afrique, comment ça se passe?
À ce moment-là, on est parti en Afrique avec le reporter photographe Thierry Secrétan parce qu'on pensait pouvoir raconter l'histoire d'un capitalisme africain. On s'imaginait que l'Afrique allait décoller sur le plan...
Et votre histoire change à un moment donné.
Et puis on se plante complètement parce qu'on ne trouve pas l'espèce de... On s'imaginait que l'Afrique allait décoller comme la Chine était en train de décoller. Et puis on avait 40 ans d'avance, de toute façon, il ne se passe rien. On apprend que la Guinée équatoriale, qui a un tout petit pays avec un tout petit dictateur, mais très méchant, qui s'appelait Mathias Nguema, vient d'être renversé par un putsch mené d'ailleurs par des membres de sa famille, mais on fonce là-bas et on se retrouve dans un pays, c'est un reportage à la Tintin, parce que c'est la Guinée équatoriale, c'est grand comme un département français. La moitié de la population avait fui tout de même au Gabon, au Cameroun, et on se retrouve dans un pays, c'est un peu comme l'Albanie, si vous voulez, après le communisme, et on court de maison en maison avec l'escouade de militaires qui nous acceptent dans ses rangs, et on va de villa en villa, des villas de plus en plus petites jusqu'au fond de la forêt.
Du dictateur en question.
Et dans la dernière, on va fouiller, on va trouver, on va ramener à Paris... Des morceaux de sa vaisselle, sa médecine chinoise, parce qu'il était financé par les Russes et par les Chinois conjointement, ce qui était assez fort.
Patrice Van Hersel, avant qu'on passe à la revue de presse avec Philippe Lefébure, l'époque actuelle, l'époque des années 70-80, c'était le journalisme où on pouvait tout faire. On a l'impression, en lisant votre livre, que tout était possible.
Mais je me demande si ça ne revient pas, d'une certaine façon, parce que c'est vrai qu'on a complètement changé d'époque, mais et puis que le web est là et que le web détermine tout en matière de presse. Il n'empêche que raconter des histoires, l'idée de partir sur le terrain et de raconter des histoires, je me demande si c'est pas pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est parce que des jeunes gens qui ont 25... de 20 à 40 ans, disons, les jeunes gens de 20 à 40 ans, me posaient des questions sur cette époque et me semblaient avoir la même envie, la même envie. Et donc, ça, actuel, aujourd'hui, ça serait complètement différent, mais l'esprit pourrait être d'actualité.
Patrice Van Hersel, vous restez avec nous pour Interactive tout à l'heure aux alentours de 8h40. Vos questions à Patrice Van Hersel, un des journalistes d'actuel, le magazine Underground des années 70-80 qui va aller jusqu'en 94. Vos questions 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.